Dieu vous bénisse, nous allons prier et nous allons nous recommander à celui qui a autorité dans les cieux sur la terre. Amen. Gloire à toi, Père Céleste, c'est vrai, toi-même tu l'as dit, Seigneur. Tu as reçu toute autorité dans les cieux sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes dans tes mains encore ce soir. Nous t'appartenons et nous savons qu'encore ce soir tu vas parler avec nous. Tu es au milieu de nous, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es parmi eux. Oui, Seigneur, fais du bien à nos âmes. Nous avons besoin de consolation, d'aide, de soutien et de pouvoir continuer la lutte dans ce monde contre les princes de ce monde afin que nous puissions voir l'autorité qui vient seulement de toi pour détruire toute œuvre du diable. C'est toi qui te manifestes, c'est toi encore qui nous visites ce soir et qui nous fait grâce. Tu vois les besoins parmi ton Église, grands et petits, tu vois les souffrances. Oui, Seigneur, encore avec cette chaleur, avec tout ce qui se passe, toutes ces choses qui sont un peu contre nous, mais toi, tu nous as mis à part et tu es en train de te former un peuple qui porte ton nom pour être un peuple à part qui t'appartient. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce soir et que ta parole puisse triompher. Et élever toi-même, t'élever toi-même parmi tes enfants. Parce qu'il s'agit de cela. Tu es la tête et nous sommes tes disciples, tes serviteurs. Et encore ce soir, nous voulons apprendre de toi. Toi qui es doux et humble de cœur. Merci. Bénis ton Église partout, dans les familles. Bénis encore tous ceux qui sont dans le besoin. Et que tu puisses encore, et que ton nom soit élevé encore ce soir. Dans ce nom merveilleux que notre cœur aime et que nous voulons élever au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais à la page 49 en italien, je voulais lire le dernier. Le dernier paragraphe. Donc ici, on lit. C'était la lettre circulaire de décembre 2008 du frère Franck, un extrait. Et le frère a lu ce petit paragraphe. Donc Satan, il a plusieurs noms, serpent ancien, etc. Donc il a lu manifestement. Satan se tient devant l'Église pour empêcher l'enlèvement, pour empêcher la victoire définitive du fils mâle que Dieu a donné à son Église. Donc l'extrait c'était « Manifestement, Satan se tient devant l'Église comme cela est prédit dans la dernière phase avant l'enlèvement. » Apocalypse 12. Donc l'ennemi s'avance toujours plus pour empêcher, surtout dans ces derniers temps, nous empêcher de pouvoir manifester l'œuvre de Dieu au milieu de l'Église, parmi les enfants de Dieu. Et donc, on voit que c'est ça, c'est ce moment-ci. Je ne sais pas si vous pouvez vous le représenter, ce dessin, cette image. Qu'il y a, vous connaissez le dessin de l'Alfa Romeo, il y a un petit symbole de la voiture. L'Alfa Romeo, c'était écrit dans l'Apocalypse 12, on peut lire un petit moment, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, verset 4. Apocalypse 12, 4. Où il est écrit « Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. » Et ça, c'est toujours la même lutte qui existe toujours dans l'Église parmi les enfants de Dieu qui cherchent de tout leur cœur à servir Dieu. Malgré, disons, tout ce qui se passe, toutes les situations, les circonstances, même les gouvernements, toutes ces choses-là, les oppositions, tout ce qui est contre nous et tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a toujours cette opposition. Donc, verge mâle. Je continue la lecture ici dans Apocalypse 12, 4. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu, etc. Mais on sait que cette lutte, au verset 11, on sait très bien que les enfants de Dieu l'ont vaincu. Amen. Amen. Et au verset 11, il est écrit, « Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc on est sûr. On est sûr que Dieu veille sur ses enfants. Comme un père prend soin de ses enfants, mais un pasteur prend soin de ses brebis. Il y a toujours cette lutte. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais on ressent ça. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce. Amen. Donc je continue ici la lecture du frère Franck jusqu'à la fin. Donc page 49 en italien. Donc manifestement Satan se tient devant l'Église comme cela est prédit dans la dernière phase avant l'enlèvement. Apocalypse 12. Au début, elle réussit son objectif. Jeter l'opprobre et le mépris sur le messager et le message. Car il lui fut apparemment permis de cribler l'Église épouse. Néanmoins, nous sommes certains que le bon grain reste dans le crible. La balle seule sera dispersée à tout vent de doctrine. Tout ce qui est arrivé depuis le commencement du temps est indubitablement inclus dans le plan de Dieu, et maintenant, à la fin, il va détruire les œuvres de l'ennemi et même bientôt écraser Satan sous nos pieds. Romains 16, 20. Il va victorieusement achever son œuvre de la rédemption pour le jour du retour de Christ. Jésus est le vainqueur et notre foi est la victoire qui triomphe du monde. 1 Jean 5, 4. Et c'est pour cela que nous attendons, dans une grande clarté et dans la vérité, nous attendons à la conclusion prochaine de son action finale. L'action finale, à laquelle sera le couronnement suprême du plan de Dieu. Lorsque l'Église recevra sa puissance d'en haut, cette pluie qui viendra et qui manifestera vraiment la plénitude de Dieu au milieu, sur cette terre. Ce sera vraiment si clair, si net, que le diable devra vraiment faire demi-tour. Ça, c'est ce que l'Église dit. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse prêteront leurs oreilles seulement à la voix de l'époux. Ils seront ramenés au pas et pourront ainsi expérimenter leur achèvement. Donc je répète, le frère Franck écrit, par la grâce de Dieu, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse prêteront leurs oreilles seulement à la voix de l'époux. Ils seront ramenés au pas et pourront ainsi expérimenter leur achèvement. Donc cette voix qui parle encore dans le désert, et encore, on peut l'entendre, elle nous parle toujours, parce que c'est sa parole révélée, sa parole qui vit dans son Église, sa parole qui triomphe sur l'ennemi, sur les difficultés, vous voyez. Et c'est toujours cette même parole, parce que c'est la voix que Dieu donne faire grâce d'écouter. Amen. J'ai beaucoup de passages des Écritures. Parce que dans les différents messages qui se sont succédés selon les âges de l'Église, chaque fois, il y a toujours eu une voix qui a parlé. Et vous le savez très bien. Et encore en ces derniers temps, il y a toujours cette voix qui parle. On peut lire Jean, chapitre 10 d'abord, Jean 10. Très important. Parce que comme on l'a toujours dit, il y a beaucoup de voix dans les églises, dans le monde, dans les gouvernements, il y a beaucoup de voix. Mais nous devons écouter et on est en train d'écouter une seule voix. Amen. Par la grâce de Dieu, on est en train d'écouter une seule voix. Amen. Que Dieu doit toujours nous aider afin que nos oreilles spirituelles s'habituent à cette unique voix. Et quand on entend la voix du mercenaire ou celui qui n'est pas de Dieu, on puisse s'en éloigner. Vous savez, c'est comme dans le jardin d'Éden. Comme c'était au jardin d'Éden, c'est toujours la même chose. C'est toujours une voie de séduction. Le serpent est toujours là. Le serpent a utilisé la voie de la séduction. Voilà pourquoi Ève est tombée dans le piège. Vous voyez? Parce que cette voie, c'était une voie qui séduisait. Que Dieu nous aide à nous éloigner de toutes ces voies. Voilà, nous allons lire dans Jean 10, 26. Mais vous, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Et moi, je les connais, et elles me suivent. Ça semble rien, mais pourtant, cette parole, il faut la mettre en rapport avec le temps de la fin, c'est-à-dire maintenant. Combien de messages sont venus? Combien de personnes sont encore venues après? Qui disent, nous, on a fait ça. Nous, nous avons fait ça. On a fait ça. Nous. Nous, les sept tonnerres. Apocalypse 17, toutes ces doctrines, toutes ces phases, toutes ces phases qui sont passées durant le message. Mais Dieu a fait en sorte qu'il y ait une seule voix. Et Dieu a suscité sa voix avec l'approbation des Écritures, sachant très bien, encore aujourd'hui, que Dieu a complété cette œuvre. Parce que le message a été prêché à toutes les nations. À toutes les nations. Matthieu 24, 14. Cette chose est claire, nette. Alléluia. Donc cette voix unique qu'on peut écouter, la directive juste, sûre, sûre, qui concorde parfaitement avec le plan de Dieu. Amen. Il y a encore Marc, le chapitre 1er. Donc j'ai choisi deux passages, mais il y en a encore beaucoup. Mais ce sont des passages particuliers pour montrer ceci. Marc, chapitre 1er. Et on l'a déjà écouté. Frère Franck, il en a aussi parlé récemment. Marc 1, chapitre 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. » En italien, voix de une personne, de un. Voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Dieu doit nous faire grâce de comprendre, profondément de tout notre cœur, que le message qui est venu dans cette dernière époque, ce dernier message, le dernier messager, c'est pour l'épouse. Ce n'est pas comme Oral Roberts ou Billy Graham ou eux, c'était pour tout le peuple. D'une certaine manière, c'était d'une certaine manière une évangélisation. Mais le message qu'on a écouté, c'est le message pour l'épouse. Donc vous, quand vous parlez, quand tu parles, quand je parle, et quand tu témoignes, ton message ne peut pas être celui de Luther. Ça ne peut pas être. Donc le message qui sort de ta bouche, c'est un message qui vient directement de la révélation. Donc c'est pour les vierges sages, pour l'épouse, uniquement. Ça, c'est la voix. Ça, c'est le message. On n'a pas un autre message. On n'a pas une autre manière de prêcher, une autre manière de témoigner. L'unique témoignage, c'est ça. Amen, alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu appelle encore. Il appelle encore son épouse. Celui qui fait partie de l'épouse. Cette voix est importante, très importante, parce que c'est seulement les élus qui arrivent à entendre cette voix. Juste, c'est seulement les élus qui reconnaissent la voix du bon pasteur. Ils reconnaissent la voix de la volonté de Dieu maintenant. Le mystère de Dieu que Dieu nous a révélé maintenant, c'est ça. C'est à travers ce message, le message préparera ma deuxième venue. Alléluia. C'est si clair. Amen. C'est parfait. Et nos cœurs se réjouissent et jubilent devant cette prise de position. Ton message doit être un message de foi, un message de la parole prophétique. Voilà comment les élus viennent. Autrement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va récolter? Vous voyez? Il y a eu des évangélistes. Il y a même Osborne, il y a beaucoup, beaucoup d'évangélistes qui ont prêché ou qui prêchent d'une certaine manière, qui essaient de recueillir les âmes, et elles sont sauvées, pas du tout, elles sont sauvées. Mais le message, c'est pour l'épouse, n'est-ce pas? Amen. Vous avez compris? Amen. C'est quelque chose de spécial, de particulier, de profond. Et de profond. C'est-à-dire que Dieu cherche le cœur, cette semence cachée à l'intérieur du cœur, qui la fait vibrer et qui dit « Oui, c'est pour moi, oui, c'est pour moi. » Alléluia. Alors, là, on a alors là, c'est-à-dire que là, on aura vraiment fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce que lui veut, ce que Dieu veut maintenant. Je continue à dire. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse prêteront leurs oreilles seulement à la voix de l'époux. Ils seront ramenés au pas et pourront ainsi expérimenter leur achèvement. À la fin, une récompense céleste attend les élus, parce qu'ils auront suivi le Seigneur dans toutes les circonstances. Moi, je l'ai souligné, dans toutes les circonstances. Amen. Alléluia. Toutes. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas donner pour recevoir. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que nous, on peut donner à Dieu? Vous voyez? Qu'est-ce que je peux lui donner? La seule chose que je peux lui donner, c'est le cœur. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fin, une récompense céleste attend les élus parce qu'ils auront suivi le Seigneur dans toutes les circonstances. C'est comme maintenant, il y a des difficultés, c'est pénible, c'est difficile. Il y en a même qui se demandent s'ils vont arriver à la pension. Donc on sera à la pension, on ne se rend pas compte. Il y a des tromperies par-ci, par-là, mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir vraiment aller au-delà, de vivre par la foi. N'est-ce pas? Moi je vous regarde. Vivre par la foi. Parce que ce n'est pas le fait seulement d'avoir un compte en banque, ce n'est pas d'avoir une assurance ou une pension. Qu'est-ce que toi tu en sais? Demain il peut se passer quelque chose et je ne reçois plus ma pension. Le monde c'est comme ça. Le monde va comme ça. Donc notre assurance, ça ne peut pas être entre les mains des hommes. Notre assurance est dans la parole de Dieu. Amen. Dans ce que Dieu nous a destiné à vivre pour lui. Amen. Et il ne fera jamais manquer de pain. Jamais. Amen. Il ne fera jamais manquer de pain. C'est écrit dans sa parole. À partir de maintenant, nous ne regardons plus en arrière, mais disons, comme Paul dans son épître aux Philippiens, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, 13 et 14. Vous pouvez le noter et vous pouvez le relire tranquillement. Voilà la chose, la fin de chaque chose arrive. On ne le voit pas. Et on dirait que le monde reprend. Donc le Covid, on dirait qu'il s'arrête. Donc on dirait qu'il a peut-être remonté. Mais attention, attention. Tout ce qu'on voit, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, vous savez très bien. Tout ce qui est en dessous, vous voyez? Voilà pourquoi notre foi est en Christ. Colossiens, on peut lire une récompense dans Colossiens. Il y a beaucoup d'autres passages concernant la récompense dans Colossiens. Un passage qu'on a déjà lu dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, 23. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Donc Colossiens 3, 23. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense de l'héritage. Amen. La récompense de l'héritage. Amen. Vous servez le Seigneur Christ. Donc il y aura, pour la dire, la couronne de vie nous attend. Amen. Amen. Nous tous, à nous tous. Amen. Alléluia. Et aussi 1 Pierre. Chapitre 5, verset 4. 1 Pierre 5, 4. Donc, et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Amen. Amen. Quelle victoire, amen. On a dit l'autre jour, récemment, ô mort, où est ta victoire? Enfer, mort, où est ton dard? Où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Vous voyez? Amen. La récompense pour ceux qui ont tenu bon dans toutes circonstances. Et ils vivent pour Christ. Amen. Je continue la lecture. Avec action de grâce, je peux témoigner comme Paul, comme l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. C'est le frère Franck qui parle donc ici. 2 Timothée 4, 17. Donc je continue à lire ici. C'est une lettre circulaire du frère Franck de septembre 2009. La loi ou la grâce? Là aussi, ça c'est spécial ici. Très spécial. Ici, on a déjà parlé de cela, mais ici on a une confirmation. Il y a 162 passages qui parlent de la loi. Dans le Nouveau Testament. Donc je lis. Il y a dans le Nouveau Testament 162 passages qui font mention de la loi dans des contextes complètement différents. Et une approche superficielle, donc une approche légère, pourrait conduire à la conclusion qu'il y a des contradictions. Cependant, ce n'est pas le cas. Cependant, ce n'est pas le cas. Car tout est écrit dans le contexte. C'est là. Et là, on arrive au résultat juste. C'est ce que Dieu veut. Donc, cependant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de contradiction. Parce que tout est écrit dans le bon contexte. Et là, c'est la même chose pour la grâce. La même chose est valable pour la grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Notre Seigneur a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Voyez. On dirait que c'est une contradiction. On dirait que la grâce annule la loi. Mais non, absolument pas. Lisons, regardez. Notre Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je répète encore une fois. Notre Seigneur a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17, 18. Mais comment ça se passe tout ça? Le frère Franck va expliquer, comme on l'a toujours dit. On a toujours prêché la grâce de Dieu. Donc l'un doit entrer dans l'autre. Donc, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17 et 18. Paul a écrit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, 4. Là aussi, on peut dire que Christ est venu et je n'ai plus besoin de la loi. On dirait, attention, ça semble comme ça. Romains 10, 4. En grec, c'est le mot telos, qui est utilisé, ce qui se traduit par objectif, un objectif ou bien un but. Christ a placé un objectif pour la loi, un but absolu à atteindre, c'est-à-dire la grâce et la vérité. Vous voyez?
Vous voyez cet objectif que Dieu a mis à travers la loi, l'objectif que Dieu a mis, que le Seigneur a mis, c'est ça, un but à atteindre. C'est-à-dire, donc je répète, Christ a placé un objectif pour la loi, un but pour la loi, un but absolu à atteindre, c'est-à-dire la grâce et la vérité. Il est écrit dans Romains 3:20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà, attention, c'est à cause de la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La parole de Dieu est merveilleuse et précise. Et on parle de, ça nous rapporte à la Genèse 2:9-15. C'est moi qui ai noté cela. Nous n'aurions, frère Franck continue, nous n'aurions pas du tout su ce que la transgression ou le péché signifie, tel que le mensonge, l'adultère ou le meurtre signifie, si Dieu ne nous l'avait pas dit par la loi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a toujours une explication de ce qui s'est passé dans la Genèse au Jardin d'Éden. Que Dieu nous ouvre l'entendement pour comprendre. Et une fois qu'on a compris cet obstacle, disons, on dépasse, on va au-delà de cet obstacle directement, automatiquement. C'est pourquoi il y a l'explication suivante. C'est dans Romains 7:7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Donc, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Voilà, ça c'est dans Romains 7:7. C'est-à-dire que sans la loi, on ne peut pas savoir les choses. Sans la loi, on ne peut pas... Bon, bien sûr, on dit « je suis pécheur ». Mais c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, on va lire cela. Lisons d'abord Genèse. Lisons dans Genèse 2. Genèse 2. À partir du verset 9. Genèse 2, 9, attention. Comment la chose a commencé, écoutez. Et pourquoi? Vous vous souvenez, on l'a dit. Même si on est élu, même si on est fils de Dieu, et qu'on a encore besoin d'un tuteur, de professeur, de tuteur, bien sûr, il y a un parcours à faire. Et pendant ce parcours, Dieu nous a fait connaître le péché. On devait connaître le péché, vous comprenez. Et si tu ne savais pas le péché, si tu ne connaissais pas le péché, tu n'aurais pas pu en sortir. Et pour t'adresser au Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. J'espère que je me suis bien expliqué. Amen. Regardez, Genèse 2. Du 8 et 9. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On arrive à Genèse 2, 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Vous avez compris? Déjà, dès le commencement, Dieu avait mis une loi. N'est-ce pas? Amen, vous avez compris ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi, alléluia. Voilà où ça a commencé. Donc je tenais à dire cela, parce que c'est important. C'est très important vraiment. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Donc je continue la lecture. je continue. Nous n'aurions donc, je n'aurais, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi ne dit, tu ne convoiteras point. Romains 7, 7. Sans la loi, il n'y aurait pas eu une quelconque transgression. Par conséquent, aucun jugement. Sans la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas convaincre du péché. Sans la conviction par la loi, la grâce et le pardon divin n'auraient même pas pu avoir lieu. Alléluia. Faites bien attention. Donc, quand on se... Lors de notre conversion, lorsqu'on se convertit, nous recevons le pardon absolu de tous nos péchés et de toutes nos transgressions de la loi. Vous avez compris? Donc, il y a... Voilà, c'est ça. Il y a connaître le péché, connaître la souffrance qu'il y a à cause du péché. Voilà pourquoi il y a conversion. Voilà pourquoi il y a changement de rue, de voie. Voilà pourquoi il faut faire demi-tour. Voilà pourquoi devant Dieu et devant les hommes, tu décides de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu décides de l'aimer. Et tu décides. Alors là, voilà, on va relire. Écoutez. Lors de notre conversion, nous recevons le pardon absolu de tous nos péchés et de toutes nos transgressions de la loi, au moyen de la foi, au moyen de la foi, dans l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous obtenons la pleine justification. Alléluia. La pleine justification. Amen. Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Amen. Dans Romains 4, 7 et 8. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Romains 4, 7 et 8. Notez-le et relisez tranquillement. Au même moment, la force de vivre selon la parole et la volonté de Dieu nous a accordé. Amen. Alléluia. Philippiens 2, 13. On peut lier ça à la conversion. Dieu, depuis la Genèse, a mis cette chose-là. Il a mis cette clause, disons, parce que Dieu, Dieu, le jour où, Dieu, Dieu. Amen. Dieu connaissant la fin dès le commencement, Dieu savait toutes choses. Il connaissait toutes choses. Vous avez compris? Donc, mais, voilà pourquoi. Et c'est ici, c'est écrit dès le début. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est venu de la chair, et il est devenu péché pour toi et pour moi. Amen. Il s'est fait péché afin que nous triomphions de la loi. Parce que si tu veux obéir à la loi, tu sais que tu n'y arriveras jamais. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la grâce. Il nous a donné par la foi d'être pardonné et renouvelé pour recevoir la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Donc cette chose, c'est important. Je continue la lecture. Donc Philippiens 2, 13. On l'a déjà lu, on va encore le relire, Philippiens 2, 13. Voilà, avec la conversion, attention, hein. Avec la conversion, quand Dieu nous fait grâce d'avoir compris qu'on est des pécheurs, compris qu'on est sous la loi, esclaves de la loi, et qu'on a besoin de la grâce, voilà pourquoi tous n'a pas un, il n'y a pas un qui n'a pas péché. On est tous nés dans le péché et on a tous besoin de cette grâce pour sortir de cette loi. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'est-ce pas? C'est vrai? Vous pouvez dire amen? Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la loi. Voilà pourquoi tu peux obéir à des commandements. Neuf commandements, mais pas le dixième, tu n'y arrives pas. C'est comme la loi dit, c'est comme si tu n'avais obéi à aucun commandement. Mais la grâce c'est différent. Dieu donne la force dans Philippiens pour accomplir non pas la loi, mais la grâce. Donc ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Lisons. Donc cette parole nous fait comprendre que vraiment, vraiment, à travers la conversion, on a reçu une aide, une aide forte, une aide puissante, qui nous donne la possibilité de pouvoir suivre la parole de Dieu et de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris ça? Voilà pourquoi il est écrit ici. Dans Philippiens 2, 12, ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Vous savez, c'est comme un patron et ses ouvriers. Le patron n'est pas là. Il faut que les ouvriers, des fois se laissent aller. Et le pêcheur, il fait ça. Le pêcheur. Donc, c'est-à-dire, mais ici, la grâce, non. La grâce, même si le patron n'est pas là, même si on pense que le Seigneur ne voit pas, on continue et on est le même. Donc je continue. Donc Philippiens 2, 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi non seulement à ma présence, mais beaucoup plus maintenant à mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc cette parole qu'on lit ici, Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire. C'est pour dire que Dieu nous a aidés dans la conversion et depuis le commencement, lorsque le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés même quand on était encore, et même encore maintenant, ce qu'on devrait être, cette perfection totale, le service total, cet abaissement total. Alors lui nous vient en aide pour pouvoir arriver parfaitement à la plénitude de sa volonté, afin que sa grâce s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Moi je crois cela de tout mon cœur. Et je crois que vous aussi vous y croyez. Amen. Donc cette parole est importante, très importante, vous voyez. On continue. Donc je continue, le frère Franck continue à dire, à écrire. Nous n'avons pas seulement été rachetés du péché et des transgressions, mais également de la malédiction. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la malédiction. Disons, elle est juste sur la parole de Dieu, mais elle apporte la malédiction. Parce qu'il est écrit, malheur à celui qui est mort sur le bois, la pendue au bois. Donc c'est la loi, c'est écrit dans la loi de Dieu. Donc lisons. Nous n'avons pas seulement été rachetés du péché et des transgressions, mais également de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3.13. Vous voyez? Alléluia. Donc, dans la loi de Dieu, il y avait cette loi qui disait, voilà, maudit quiconque est pendu au bois. Maintenant, quand on voit que beaucoup sautent la vie, se suicident, ils sortent du plan de Dieu. Vous voyez? Ils ne se rendent pas compte que Christ est mort pour leur souffrance. Pour pouvoir les racheter et leur donner une voie de sortie. Mais eux, comme ils ne trouvent pas de voie d'issue, une issue, ils se pendent à un arbre, vous voyez. Et Judas a fait ça. Alléluia. Je continue. Christ, nous ayant pleinement rachetés, ne nous a pas pour autant donné la permission de commettre des choses pendant le temps de la grâce, des choses pendant le temps de la grâce qui sont des transgressions ou qui sont même sous la malédiction. Bien au contraire, L'un des 10 commandements déclare « Tu ne tueras pas ». Vous avez compris? L'un des 10 commandements déclare « Tu ne tueras pas ». Cependant, en relation avec cela, le Seigneur Jésus dit « Quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera en danger de jugement. Quiconque dira « Toi, insensé, stupide, sera en danger du feu de l'enfer. » Matthieu 5, 21 et 22. Vous voyez? Chaque chose est écrite parfaitement. Donc voilà comment la loi est accomplie parfaitement par la grâce de Dieu. Et on va lire le passage des Écritures. Donc c'est déjà 9h déjà. Donc je continue. Lorsque le Seigneur, voilà encore une fois le frère Franck revient sur mariage, divorce, etc. Lorsque le Seigneur avait dit dans la loi, tu ne commettras point d'adultère et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, alors il n'a pas annulé cela pour le temps de la grâce. Vous comprenez? Il n'a pas annulé cela pour le temps de la grâce. Au contraire, il l'a durci encore plus en disant, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Vous voyez? De la même manière, nous pouvons nous référer à Deutéronome 24, où il est parlé du mari à qui il était permis de donner à sa femme une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 32. Vous voyez? Donc ça, c'est écrit dans la loi. Mais maintenant, comment on va faire pour l'accomplir? Donc je continue. Paul nous a fait connaître le but ultime de son apostolat. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Parce que la grâce va avec la foi. L'amour va avec la foi. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, 5. Il nous a montré comment devait être la vie des vrais croyants. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Donc je reconnais que je suis un pécheur, je vois que je suis un pécheur, je n'arrive jamais à faire la volonté de Dieu, je fais des choses tordues, donc je parle de manière générale, vous voyez, je fais des choses mauvaises. Et avec la loi, vous voyez, je n'arrive pas. Il nous a montré comment devrait ou devait être la vie des vrais croyants. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je dois mourir à moi-même en nouveau, pour vivre en nouveauté de vie avec Dieu. Alors là, il y a un changement. Il y a une opération qui est faite dans ta vie, dans nos vies, et de la vie de, même maintenant, de tout celui qui ouvre son cœur et qui accepte Jésus-Christ. Et qui vient à la vérité, à la parole. C'est la même chose. Le même chemin. La même chose. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Donc moi j'ai noté ici, c'est moi qui avais écrit cela personnellement, ici, il y a l'amour et la grâce qui interviennent. Donc, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis de la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car c'est la justice obtenue par la loi. Christ est donc mort en vain. Galates 2, 19 à 21. On va lire encore d'autres passages. Donc, on va encore prendre une petite demi-heure. Il est à 9h30, on termine. Donc, je ne rejette pas, dans Galates 2, 19 à 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, je continue. Néanmoins, il s'est aussi référé aux 10 commandements, par exemple, lorsqu'il recommanda aux enfants d'être obéissants à leurs parents. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, 1 et 2. En tant que juif, qui fut instruit, donc Paul, qui fut instruit dans les Écritures, il savait très bien ce qu'il en était, ou ce qu'il en est, des 12 malédictions écrites dans Deutéronome 27. Il y avait le mont Gerizim et le mont Ebal. D'un côté, il y avait les bénédictions, et d'autre, il y avait les malédictions. Donc j'avais contrôlé vraiment, c'était bien ça, 12. Donc j'ai vraiment contrôlé, je connaissais mais j'ai recontrôlé. Donc là où il est dit, entre autres, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Ainsi celui qui déshonore l'un de ses parents se trouve sous la malédiction, même si cette personne parle pieusement de la grâce. Amen. Vous comprenez? Nous lisons dans 1 Corinthiens 5 d'un cas au sujet duquel Paul, qui vivait sous la grâce, a dû dire qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Verset 5. On l'a déjà lu plusieurs fois. Sans aucun doute, il avait dans son esprit le passage de Deutéronome 27, 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car elle soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Et ça, c'est sur le mont Gerizim. Et Ebal ou le contraire. Galates 5, 13. Lisons Galates 5, 13. Lisons dans Galates. Amen. 5. Galates 5. 13 et 15. Galates 5. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. C'est important. Parce que beaucoup, étant de la grâce, pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ça, ça ne va pas, c'est possible. Mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Par amour. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant le 24, verset 24. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Ce qui est sous la loi, la chair, la convoitise. Voilà pourquoi il faut une nouvelle naissance régénérée en Christ Jésus. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui nous donne cette possibilité de comprendre pleinement la volonté de Dieu et de voir que dans cette loi, Donc tous mes droits, je les perds devant Dieu, mais par le sang, j'ai pu faire en sorte que je change de voie. Et de la mort, je passe à la vie. De la loi vers la grâce que Dieu, donc vraiment la grâce que Dieu nous a offerte. Donc ceux qui sont en Christ, donc verset 24, or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Matthieu 7, 12. Lisons maintenant Matthieu 7, 12. Donc on essaie toujours d'approfondir, toujours plus. Matthieu 7, c'est une parole très importante qui fait aussi partie de la loi. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Quand il y a quelqu'un qui parle, il y a toujours quelque chose à apporter, à puiser, à régler. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Donc toutes les choses que vous voulez que les hommes fassent, faites-les d'abord. C'est une parole un peu difficile pour ceux qui sont sous la loi, mais facile pour ceux qui sont sous la grâce. Donc si on comprend la communion avec l'Esprit de Dieu. Car ceci est la loi et les prophètes. Donc c'est le verset 12, Matthieu 7, 12. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même. C'est là la loi et les prophètes. Alors d'autres versets très précis, encore ici. Enfin, cet échange qu'il y a eu, c'est pour ça que j'ai lu dans le jardin d'Eden ce qui s'est passé. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça que Dieu vraiment nous ouvre l'entendement de comprendre que sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, on serait soumis à la loi, esclave de la loi. Voilà pourquoi des fois on aime, des fois on n'aime pas. Des fois on se rebelle, des fois on ne se rebelle pas. On a toujours des hauts et des bas, des hauts et des bas, continuellement. Mais si on arrive à être de l'autre côté, mes amis, je vous dis, alléluia, alléluia, c'est fait. Amen. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc est la somme de la loi. Amen. Vous avez lu? C'est l'amour, on peut dire la plénitude. La somme de la loi est la plénitude de la loi. Comment je vais faire pour accomplir la loi sur l'amour? Voilà pourquoi Jésus nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Combien de fois on l'a lu? Faites attention. Et lui s'est fait pécher la loi. Parce que c'est ça. Donc tout ce qui est écrit, pas un iota se perdra. Mais on ne peut pas accomplir sans l'amour de Dieu, sans la grâce de Dieu, on ne peut pas le faire. Ainsi dit l'Écriture. On va toujours être dans un état de faiblesse, de déficience. Voilà. C'est-à-dire soumis, esclaves, même de nous-mêmes, de l'ancienne nature, de cet ancien homme qui a entendu dans le jardin d'Eden, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est puissant. La charité ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc est la somme de la loi. Donc comme le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli parfaitement, c'est parce qu'il nous a aimés et il nous aime encore. Et Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 37. Matthieu 22, 37. Vous savez, les pharisiens étaient toujours là pour essayer de tendre des pièges. Hein? Toujours des pièges. Ils pensaient que le Seigneur serait tombé dans leur piège. Mais ça, c'est le diable. Ça. Matthieu 22, 37. Et il lui dit. Donc, commençons au 34. Et les pharisiens, ayant ouï dire qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent en un lieu. Et là, vous voyez, il y en a qui, comme encore aujourd'hui, il y en a qui croient une chose, il y en a qui croient une autre. Et un docteur, l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, disant, vous voyez, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. » Vous voyez la plénitude. Vous voyez comment ça complète. C'est pour ça que je l'ai dit au début, on l'a lu quelque part, le Seigneur complétera, ou accomplira, fait, oui, son œuvre. Et l'épouse, avec l'épouse, on arrivera à vaincre toute la bataille. Mais laissons-lui la place. Et voyez comment lui arrive à la pleine victoire. Laissons-le agir. On sait que lui œuvre pour le mieux qu'il puisse y avoir pour nous. Vous voyez ? Verset 38, c'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Amen. Ça, c'est la conclusion. C'est que la loi, on ne peut jamais l'accomplir sinon à travers la grâce et l'amour de Dieu. Alors là, on pourra faire la loi. Alors ici, on arrive, on continue la lecture. Ce que Dieu avait dit dans la loi demeure également valable pendant le temps de la grâce. Ce que Dieu avait dit dans la loi demeure également valable pendant le temps de la grâce. C'est très important, je vais souligner ici le mot qui dit vrai. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, et que tu commets, alors tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, 11. Voilà, on peut toujours réussir une chose, mais pas l'autre. S'il n'y a pas l'amour pour Christ, s'il n'y a pas l'amour pour la parole de Dieu, et l'obéissance de la foi à cette parole, on ne pourra jamais vaincre la bataille. Alléluia. Premièrement sur nous-mêmes, et ensuite dans la famille, parmi les frères, dans les églises, on ne pourra jamais vaincre. Que Dieu bénisse vraiment, puissamment nos cœurs. Amen. Alléluia. Ça, c'est la vérité. La vérité, amen. L'apôtre Paul avait sérieusement averti l'église en disant, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. » Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleur, ni avare, ni ivrogne, ni outrageux, ni ravisseur, n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Alléluia. Voilà pourquoi le message, voilà pourquoi il était nécessaire la conversion. Donc j'ai noté ici, c'est moi qui ai écrit. Voilà pourquoi c'était nécessaire la conversion et le baptême du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que c'est seulement ce baptême, pas une onction, non, pas une onction, mais le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette parole qu'on a lue dans Philippiens 2, il nous aide à maintenir et à soutenir ce que lui a dit pour accomplir la chose dans nos vies. Je continue la lecture. En fait, moi j'ai souligné, en fait, la grâce signifie vivre la parole, les commandements. En effet, la grâce signifie vivre la parole, les commandements. Par notre vie de tous les jours, nous témoignons si nous sommes sous la bénédiction ou sous la malédiction. Celui qui vit réellement de la grâce vit vraiment toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chaque pays de la terre a ses propres lois. Mais dans des circonstances normales, nous n'entrons pas en conflit avec ces lois pendant le temps de notre vie. C'est vrai. Et nous allons lire quelques passages d'Écriture. Donc, nous n'entrons pas en conflit avec ces lois pendant le temps de notre vie. Et moi, j'ai souligné. Donc, je relis. Celui qui vit réellement de la grâce vit vraiment toute la parole de Dieu. Chaque pays de la terre a ses propres lois. Mais dans des circonstances normales, nous n'entrons pas en conflit avec ces lois pendant le temps de notre vie. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut peut-être ne pas être d'accord avec la loi des hommes. Et pourtant, Dieu les a mis là. C'est comme disent les Écritures, la loi. La loi dit que nous, on doit être soumis aux autorités. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent de cette parole. On ne se rend même pas compte. Beaucoup aujourd'hui. Donc, il parle de Covid, de vaccins, de toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Chaque chose. Au lieu de mettre les choses à leur place, au lieu de trouver sa place en tant que croyant, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Ils ne trouvent même pas la paix. Ils ne trouvent pas leur place de la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Daniel avec la statue Belshazzar, que Belshazzar fait faire au nom de Daniel, Nebuchadnezzar. Donc Daniel 2. Lisez Daniel 2. Daniel 2. On leur demandait d'adorer une statue. Donc c'est le verset. Vous imaginez à Rome, quand on les appelait des chrétiens, en Antioche, on les a appelés des chrétiens. Et puis, à Rome, on les a fait passer à travers le lion. Et pourquoi? Pour leur plaisir. Vous voyez? Verset 16. Donc, dans le livre de Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder. Et alors Daniel. Donc c'est 1, 2, 16. Donc le passage où Daniel a dit qu'il ne va pas s'agenouiller devant les statues. Pourquoi? Parce que dans les circonstances normales qu'on vit maintenant, mais il y a aussi des circonstances diverses. Il y a des vierges folles qui devront passer par le feu et se soumettre. Ils ne vont pas, mais ils devront passer par la grande tribulation. Vous avez compris? Amen. Donc il y a des circonstances diverses. 1 Pierre. Donc ce qu'on vit maintenant, c'est aussi des circonstances normales. 1 Pierre. Je me souviens que quand on devait prendre l'assemblée à son malobardo, je parlais avec le maire de la ville. Donc d'abord donc il y a des techniciens d'abord. Alors ils ont construit. Ils les ont construits à son malobardo, dans la partie industrielle. Ils ont compris un bâtiment et ils ont. Il y a une autre église déjà là. C'est pas les témoins de Jéhovah, c'est une autre église évangélique, je sais pas quoi. Donc diverses religions, disons, ils sont là. Et ils disaient, mais toi aussi tu peux aller là. Comme ça, vous êtes tous ensemble, c'est tranquille. Vous voyez? Donc ça, on ne pouvait pas l'accepter, on ne pouvait pas accepter ça. Et donc le Seigneur a conduit d'une manière spéciale, en parlant directement avec le maire. J'ai parlé clairement de comment on fait les choses. Et Dieu nous a ouvert la porte tranquillement. C'est vrai qu'on n'a pas de statut, donc on passe comme une maison normale, disons. Comme une deuxième maison, ok. Mais on est tranquille. On est tranquille. Sinon là, on ne serait pas tranquille. Gloire à Dieu. 1 Pierre 3, 15. On va lire à partir du 13. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon? Mais si même vous souffrez pour la justice. Donc je recommence 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 3, 14, 15. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon? Mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux. Et ne craignez pas leur crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance. Alors si on vous demande, ouvrez vos bouches. Maintenant Matthieu 10. Matthieu 10. Alléluia. Matthieu 10. 16. Voici Matthieu 10, 16. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simple comme les colombes, et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin, et vous fouetteront dans leur synagogue. Et vous serez même menés devant le gouverneur et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. On pense à Paul devant Agrippa. L'autre roi. Donc on sait que Dieu l'a aidé à parler, à dire exactement les paroles qu'il devait dire. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Alléluia. C'est pas une grande consolation? Où est-ce qu'on va placer cela? Au temps de la tribulation? On peut même voir ça maintenant. Le Seigneur, notre Père, Dieu, parlera pour nous si on est soumis à son autorité et à sa parole. Lui va parler pour nous. On n'a même pas besoin de se défendre. Alléluia. Donc le frère Franck écrit, et si cela devait arriver une fois, alors nous avons Jésus-Christ en tant qu'avocat qui intercède pour nous, 1 Jean 2:1. Et il nous a même dit comment nous pouvons accomplir sa loi dans son ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on dit, qu'on communique les uns avec les autres? Est-ce que ce n'est pas ça qui est important pour l'homme maintenant, pour les fils de Dieu, la fille de Dieu maintenant? Plus que toute autre chose, aimer Dieu, plus que tout. C'est ça qui fait de toi un victorieux, un élu, un fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier. Et comment? Et Donc, il nous a lui-même dit comment nous pouvons accomplir sa loi dans son ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans Matthieu 22, 37 à 40. Amen. Ceux qui sont pardonnés vivent cela sans aucun effort d'eux-mêmes, parce que l'amour envers Dieu, envers leurs frères et sœurs, a été déversé dans leur cœur. Amen. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez le lire, cela. On va lire Romains. Romains 5. Je crois que la leçon de ce soir, ça a été profonde. Amen. C'est vrai, amen. Romains 5, 5. À partir du 4. Romains 5. À partir du 3. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience laisse l'expérience. Et l'expérience, une autre traduction, on peut dire la fidélité éprouvée, l'expérience, produit l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Car l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est une vérité absolue. Voilà pourquoi, si je reviens au titre, le sujet, la loi et la grâce. La loi et la grâce. Ça a été merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Qu'on peut vraiment confirmer avec le passage des Écritures où il n'y a plus. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui est enlevée, la jalousie, l'envie, toutes ces choses là ça fait partie de la loi. Mais quand la grâce vient, tout ça, ça part. Alléluia, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Mais on va... Donc Dieu a placé des ministères, des dons, etc. Donc là, il n'y a pas... C'est-à-dire que dans le passé, que Dieu nous aide à effacer tout le passé erroné, trompeur, là où il y a eu des erreurs, là où le diable s'est infiltré dans les églises, dans l'église de Dieu vivant, pour détruire, pour chercher à détruire. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de courants qui sont partis de là, beaucoup de choses se sont passées, mais que Dieu nous fasse grâce d'effacer tout cela et de vivre la vraie restauration de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Vous y croyez? Amen. Pouvoir vivre vraiment cela de tout notre cœur, sans aucune pierre d'achoppement. Que Dieu, bientôt, très bientôt, verse sur nous tout ce qu'il a promis. Alléluia. Ça, c'est une prière qu'on fait tous. Tout le monde, ce soir, va faire cette prière. Encore maintenant, ce soir, qu'il puisse déverser sur nous. Parce que tout ce qui est du passé, tout ce qui est vieux, doit partir. Toujours plus. Et toute chose, toujours plus, devient neuf. Dieu se révèle à nous, il nous donne des clartés tellement visibles et tangibles qu'on ne peut pas faire autrement et dire merci Seigneur, tu parles avec nous. Alléluia. On croit cela, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses précieuses. On arrive à la fin de cette brochure. Et bientôt, on va la terminer. Alléluia. Amen. On a été bénis. Vous avez été bénis ce soir? Amen. Vous avez reçu quelque chose dans votre cœur? Amen. Moi bien. Amen. Et à vous maintenant. Sans la grâce de Dieu, on est zéro. On est que chair, que de la chair. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, fait de nous des fils et des filles de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Je me trompe? Alléluia. Nous allons recevoir notre récompense. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Amen. Que Dieu nous aide tous, grands et petits, jeunes, moins jeunes. Prions les uns pour les autres. Demain, Dieu voulant, prions aussi pour ça, prions aussi pour ça. Nous irons dans la famille Gianni Mariucci pour les visiter avec le frère Stefano. On va faire une petite réunion. Et que le Seigneur guide chaque chose. C'est important que le Seigneur marche avec nous. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Même pour Bruno, frère Bruno, lui qui est aussi en souffrance ici, peut-être il ne s'attendait pas. Et aussi la sœur Jeanne, qui a aussi besoin de prière, à Abidjan, un moment aussi difficile. Que le Seigneur la garde. Dieu le fera, Dieu le fera. Peut-être que Le frère Bruno ne s'attendait pas à tout ce travail. Voilà, il a de quoi se former maintenant. Peut-être à Bruxelles c'était une chose, maintenant c'est différent. Voilà, le frère demande. Le frère de moi, on a trouvé une maison. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, on a trouvé une maison. Et le frère Francesco a une requête de prière. Pour mon oncle. Qui est. Nous sommes en commun. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir. J'ai témoigné mais n'a pas cru le temps d'entrer. J'aimerais compris afin que Dieu me donne encore la possibilité de lui parler. Et s'il doit laisser cette vie, que le Seigneur fasse sa volonté. Nous allons prier. Nous connaissons cet homme. Ettore, il s'appelle Ettore. Dieu le connaît. Nous voulons croire que les jours des miracles sont encore là. Et nous croyons au jour des miracles. Il est vrai qu'il va y avoir la grande pluie, mais les jours des miracles sont toujours là. Sinon, qu'est-ce qu'on va... Sinon, pourquoi on serait réunis? Qu'est-ce qu'on attend? Que Dieu nous remplisse de foi, de force, d'autorité. L'autorité suprême. De façon qu'on puisse voir ces jours glorieux. Des jours vraiment glorieux, mes amis. Vous y croyez? Que Dieu parle encore? Donc il faut vraiment intercéder. Nous allons prier. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, moi je voudrais simplement prier pour cette requête, et ensuite le Seigneur continuera. Nous allons incliner nos têtes. Glorieux Jésus, toi déjà tu as écouté. Tu as déjà écouté et tu connais parfaitement cet homme qui s'appelle Ettore. Oui Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que partout, il y a des médicaments qui peuvent fonctionner. Mais nous savons que toi aussi tu as un autre médicament qui est encore plus grand, plus important, plus puissant. C'est la médecine de la résurrection. Par tes meurtrissures, par ton sang précieux, nous croyons qu'il y a ce médicament, cette médecine, que nous pouvons encore utiliser au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, éloigne cette maladie, cette souffrance, et qu'il puisse vraiment retrouver le chemin de la vie éternelle, pour pouvoir être converti, et écouter même une fois ta parole, ton salut. Ton œuvre accomplie à Golgotha pour toutes les personnes qui sont dans le besoin et pour les pécheurs, pour chaque pécheur. Oui, Seigneur, fais grâce. Encore pour Stéphane. Stéphane, tu sais, nous savons que tu es puissant, mais que son cœur s'ouvre à l'action puissante du Saint-Esprit. Bénis cette famille que tu as choisie, assurément. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Voilà pourquoi nous croyons, Seigneur, que tu as quelque chose d'important à faire. À toi va toute l'adoration, la louange de nos cœurs. Nous croyons que tu es en train d'écouter. Nous croyons que tu es présent et que tu accomplis ton œuvre. Nous le croyons de tout notre cœur. Par le sang précieux qui guérit, le sang par tes meurtrissures qui sont sorties de ton corps. Il y a eu du sang et de l'eau. Il y a des grumeaux de sang qui sont sortis. Encore, cette chose est présente devant nous sur l'autel de Dieu. Fais grâce, agis. Glorifie ton nom. Et pour tous les autres, Seigneur, pour tous les autres, que ce soir, cette parole qu'on a écoutée puisse être une bénédiction à tel point que notre foi puisse être élever et confirmer ta parole dans nos vies. Et aussi pour les personnes âgées, notre soeur Carmela et d'autres, tous ceux qui sont dans le besoin, que tu puisses agir. Agis, Seigneur. Dispose les cœurs, dispose de nos vies. Pour mon épouse, pour tout le monde, dispose des cœurs, fais grâce à chacun. Parce que sans toi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas seulement ta parole, mais ton action qui suit la parole. Alléluia. À toi, l'adoration, la louange, le remerciement de notre précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. gloire à ton nom, Seigneur. Te remercions de tout notre cœur. Parce que nous savons, nous pouvons le dire, nous aussi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Toi, Seigneur, tu t'es révélé dans nos vies. Parce que tu as accompli beaucoup de grandes choses dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous trouvons du repos dans tes promesses. Ô Seigneur, tu as dit que tu seras toujours avec nous. Tu te révèles, tu nous révèles ta parole. Afin que, Seigneur, nous puissions trouver foi, repos, paix dans toutes tes promesses. Tu es venu pour guérir. Et ton bras n'est pas court. Ô Seigneur, nous avons vu tant de choses, mais nous savons que tu peux faire au-delà de ce que nous croyons ou demandons. Voilà pourquoi nous reconnaissons que, encore ce temps-ci, tu peux faire de grands miracles. Déjà, tu as changé notre vie, ô Seigneur. Tu nous as gardé de beaucoup de difficultés, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu écoutes nos prières. Nous savons que tu sais de quoi nous avons besoin. Toutes nos difficultés, les maladies, Seigneur, les défauts qu'on a, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Encore, Seigneur, pour nos enfants, pour tous ceux qui doivent encore venir, ça, c'est notre désir, Seigneur. Nous savons que c'est aussi ton désir, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse. Donne-leur l'occasion de témoigner. Donne l'occasion de témoigner à ce monde qui périt, qui souffre, qui a besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des dons et des ministères, non pas pour nous élever, mais afin que nous puissions te servir, afin que nous puissions passer du temps avec toi sur terre, à pouvoir te servir, parce que c'est notre plus grand désir. Et Seigneur, si toi tu ne bouges pas, si nous ne te laissons pas faire, alors nous on ne pourra rien faire. C'est pour ça que nous te prions de te révéler, afin qu'on puisse accomplir tes œuvres. Nous sommes tes ambassadeurs sur cette terre. Seigneur, aide-nous. Envoie-nous et nous ouvrirons la bouche. Fais que notre foi, la foi, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui sont dans le besoin, les malades, les besogneux, que tu puisses répondre. Comme je disais encore ce matin, tu n'oublies jamais tes enfants. Comme un enfant, comme une femme n'oublie pas. Mais même si une femme oublie ses enfants, toi tu n'oublieras pas. Réponds, Seigneur, à ces prières, même sans parler. Tu connais nos besoins, surtout nos défauts, afin que nous puissions, oh, comme on l'a entendu ce soir, Seigneur, t'aimer plus que toute autre chose. Aimer nos frères, aimer nos prochains, comme nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, guide-nous, écoute nos prières, réponds, fais-nous grâce. Bénis toute ton Église sur toute la surface de la terre, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus-Christ, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un veut encore prier? Mes amis, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous, Père Céleste. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Sachant que nous vivons ces jours et que tu as envoyé ce message pour nous préparer le chemin, préparer nos cœurs. On ne compte pas sur nous-mêmes, comme on l'a entendu. C'est ton œuvre. C'est toi qui as accompli ton œuvre. Et tu l'accompliras jusqu'à la fin. Nous sommes certains. Nous voulons disposer nos cœurs à la pleine obéissance à la vérité. Continue ton œuvre. C'est toi qui fais tout. On l'a entendu, sans toi, on ne sait rien faire. tu vois le besoin, tu vois ceux qui souffrent. Dans certains sens, nous sommes aussi responsables parce que nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Fais-nous grâce, Père Céleste. Que ce ne soit pas nous, mais que quelqu'un apporte le message du salut. Là où l'amour et la grâce vont ensemble. Cette grande vérité. Par amour. Ce n'est pas pour nous-mêmes ou pour quelque chose, mais par amour. Pour l'amour de ton peuple. Pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Fais-nous grâce. Et cette grâce n'est pas quelque chose de pour autant, mais c'est éternel. Nous serons éternellement reconnaissants. Tu vois tout le besoin que tu t'es exprimé. Touche tout apparent. Tu t'occupes des oiseaux du ciel, combien plus tu t'occupes de tes enfants. Nous prions de tout notre cœur, Père Céleste. C'est seulement par la foi, ta parole a une efficace. Tu nous l'as donnée dans le Christ Jésus, et Jésus est la parole. Merci pour nous avoir révélé, nous fait savoir cela. Et nous tous sommes reconnaissants. Visite chacun d'entre nous. Guide-nous. Et que ta main puissante puisse être sur nous. À toi va toute la gloire. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse Mior, la famille Mior, Franco, Luzella, et toutes les autres familles qui sont aussi dans le besoin. Et étends ton bras, comme on l'a lu, ton bras n'est pas court. Au nom de Jésus Christ rempli de cœur, fais grâce. Vivifie ta parole, cette semence que tu as mise dans nos cœurs, afin qu'elle puisse produire pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Oui, Seigneur. Nous comptons sur ta fidélité, non pas sur la nôtre, mais sur ta fidélité. Bénis-nous, Seigneur. Sanctifie, glorifie-nous par ton nom. Manifeste-toi encore au tien. Tu vois qu'il y a des souffrances cachées, des choses dans l'âme. Ô Seigneur, détruis les œuvres du diable. Tu es venu pour cela, afin que chaque chose soit rapportée à la lumière. Chaque chose soit remise sur le chandelier, là où il y a la parole, là où il y a l'onction, là où il y a la bénédiction, là où sort la réponse, là où tu parles, au cœur vraiment. Merci Seigneur Jésus, agis. Je te prie, dans le nom de Jésus-Christ, pour toutes les familles, pour tous les besoins de la famille. On dirait qu'on ne voit rien, mais il y a des besoins. Et je te prie d'agir. Vraiment, au nom de Jésus-Christ, à toi l'adoration et la louange, à toi les remerciements de nos cœurs, et pour nous tous les frères ici présents, frères et sœurs, qui portent ton nom, que tu puisses vraiment le bénir, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus.